Bonjour, vous êtes sur Radio B, la radio des bonnes ondes, 90.fm, dans l'émission Musique au pluriel, avec donc Bruno Point à mes côtés. En l'absence de Paul Turchet, mais qui a travaillé avec nous pour préparer cette émission, et moi-même donc. J'ai un grand plaisir, une immense joie même, à vous présenter cette émission, parce que j'ai découvert un compositeur que je connaissais absolument pas, sinon un air. Et ce musicien s'appelle Jacques Offenbach. Mais il faut dire que Jacques Offenbach n'était pas Jacques Offenbach au départ. En effet, il est né de Jacob Eberts. Et il est le deuxième fils et le septième des 10 enfants donc d'Isaac Judah Offenbach et de son épouse. Isaac, issu d'une famille de musiciens, abandonne son métier de relieur et gagne sa vie itinérante comme chantre dans les synagogues et violoniste dans les cafés. Cet homme, donc le père de Jacob, Isaac, donc, est connu sous le nom de Der Offenbacher. D'après sa ville natale, Offenbach sur le Main, près de Francfort sur le Main. Et en 1808, en vertu d'un décret qui a été signé, je ne sais trop pourquoi, à Bayonne, il adopte Offenbach comme patronyme. Et donc, en 1816, il s'établit à Cologne où il devient professeur, donnant des leçons de chant, de violon, de flûte et de guitare, ainsi que de composition musicale. Donc, que Jacob Ebert, devenu Jacques Offenbach, lui est né en 1819, il y a deux siècles, et là nous fêtons le bicentenaire de sa naissance, puisque nous sommes, faut-il le rappeler, en 2019. Et si certains de ses airs et compositions sont connus dans le monde entier, Bruno ne démentira pas, ce succès a eu une contrepartie assez désagréable, sinon douloureuse, puisque près de 130 ans après sa mort, en 1880, le grand public ignore toujours la quasi-totalité de son œuvre, qui est riche de plus de 600 opus, qui sont inédits pour la plupart. Et si Offenbach a été décrit comme le roi des amuseurs, mais aussi l'un des grands compositeurs du XIXe siècle, il était grand créateur, facétieux, mais aussi grave et profond. Et il serait dommage de ne voir en lui que l'image déformée ou pour le moins étroite que nombre de mélomanes se font toujours de cet homme musicien singulier, fantasque, pardon, à l'énergie inépuisable. Donc nous allons avoir plaisir à vous le faire découvrir ou mieux le connaître.
Donc Jacques Offenbach est donc né dans une famille juive de musiciens. Vous verrez ainsi la parenté par rapport à notre dernière émission où nous parlions notamment de Gershwin, Jérôme Kern, qui étaient des immigrés provenant des pays de l'Est européens et qui sont implantés aux États-Unis et qui ont été les grands musiciens de cette époque américaine des années 20 à 50. Eh bien, Offenbach, lui, il est né à Cologne. Il a eu une éducation musicale très rapidement. À 6 ans, son père lui fait jouer du violon, puis il passe au violoncelle. Et on s'aperçoit très rapidement qu'il est extrêmement doué. C'est vraiment un musicien né. Il est capable de jouer avec ses frères et sœurs en trio qui sont plus âgés que lui. Et très rapidement, il va lui-même transcrire, écrire et progresser tout à fait. À tel point que son père l'emmène à Paris. Paris, c'était un peu le centre de la musique aussi. Et là, il rencontre Luigi Cherubini, qui était le directeur du conservatoire. Autre parenté avec une autre de nos émissions. Le jeune Franz Liszt était amené à Paris par son père et était allé voir Cherubini pour que Liszt étudie au conservatoire. Cherubini, qui était quelqu'un d'assez compliqué, refuse Liszt au motif réel qu'il n'était pas français et qu'au conservatoire on ne prenait que les Français. Eh bien, c'est tout à fait le cas de notre ami Offenbach, sauf que Cherubini l'a trouvé agréable et l'a pris. Donc, eh bien, utilisant la chance qu'il a eue, il a donc rapidement progressé. Et il est devenu un violoncelliste qui va exercer jusqu'à l'âge de 35 ans, puisque c'est seulement à cet âge qu'il arrive à percer au niveau de ses compositions, alors qu'il a toujours composé. Nous allons commencer par une œuvre en rupture totale de l'image que nous avons d'Offenbach, à savoir l'opéra bouffe que nous allons écouter tout au long de cette émission, par une œuvre dite de salon pour violoncelle et orchestre, ou violoncelle et violoncelle, ou violoncelle et piano. Donc Offenbach est violoncelliste, il écrit cette très très belle œuvre, vous allez tout de suite être surpris pour ceux qui connaissent Offenbach. Nous ne sommes pas dans l'opéra bouffe, nous sommes dans la mélodie magnifique. Nous sommes chez le musicien. Juste un mot, le titre c'est Les larmes de Jacqueline. Cette musique est fortement associée à Jacqueline Dupré. Je vous incite à aller sur YouTube et à la regarder. C'est une très très grande violoncelliste qui a connu malheureusement une vie qui s'est achevée beaucoup trop tôt puisqu'elle est décédée d'une sclérose en plaques. Elle était la compagne de Barenboim, le grand chef d'orchestre pianiste, et elle a joué cette œuvre, et très naturellement, vu le titre, Les larmes de Jacqueline, on l'associe à la mort précoce de Jacqueline Dupré. Écoutons Les larmes de Jacqueline de Offenbach.
Donc, faut-il souligner cet Offenbach, qui était d'abord violoniste puis violoncelliste, a même été surnommé le petit Liszt du violoncelle, me semble-t-il, Bruno.
Tout à fait.
Donc, nous arrivons au temps où il a été remarqué par le directeur de la Comédie Française, et donc il est resté 5 ans. Au théâtre français, et voilà ce que nous dit Jacques Offenbach. Pendant les 5 années où je restais au théâtre français, devant l'impossibilité persistante de me faire jouer, l'idée me vint de fonder moi-même un théâtre de musique véritablement bouffe, gai et spirituel. La musique qui vit enfin s'oubliait peu à peu, il le regrettait évidemment. Les compositeurs travaillant à l'opéra comique faisaient, dit-il, de petits grands opéras. Il ajoute, je vis qu'il y avait quelque chose à faire pour les jeunes musiciens qui, comme moi, se morfondaient à la porte du théâtre lyrique. Donc après ces 5 années au théâtre français, il décide de tenter l'aventure. Après donc s'être fait la main et cultivé et étendu de nombreuses relations, faut-il rappeler qu'en tant que chef d'orchestre au Théâtre français, il n'avait pas que des amis, mais il aussi pouvait composer des musiques de scène et des airs selon les besoins du répertoire. Et donc après ces 5 années, Offenbach ouvre, après avoir découvert un petit théâtre désaffecté, qui était un théâtre de bois tenu par un prestidigitateur qui s'appelait Lacasse, et qui se trouve donc vacant. Il obtient les autorisations pour faire retaper la salle et l'inaugure en 1855. Et là, nous assistons au premier bouffe parisien, avec un spectacle dont il est dit que le succès est nul le soir de sa générale, mais prodigieux dès le lendemain. Cette composition s'appelle Bas-Théa-Clan, qui est une histoire assez invraisemblable dont vous pourrez vous lire sans difficulté le livret. Nous allons donc l'écouter.
Il est français.
Je suis
tu es, il est. Nous sommes tous français, oui français, oui français, oui français, oui français.
Je suis français,
il est français, mais oui français, je suis français, il est français,
il est français,
il est français.
Il demande une chaise, de bonheur il se sent mourir,
il pourrait s'évanouir.
Je demande une chaise,
une chaise, une chaise.
Il demande une chaise.
Je demande une chaise,
une chaise, une chaise.
Il demande une chaise.
Je demande une chaise,
une chaise, une chaise.
Il demande,
il demande une chaise.
Il demande une chaise.
Il demande,
je demande une chaise.
Il demande,
je demande une chaise.
Une chaise,
je suis mal à son aise.
Les larmes de Jacqueline, que nous avons écoutées avant le Bataclan, puis le Bataclan, on cerne Offenbach. Offenbach, c'est un très grand musicien, et c'est un farceur. C'est quelqu'un qui a aimé et qui a vraiment propulsé l'opéra bouffe. Et qu'est-ce que l'opéra bouffe? Situons-le. Il y a plusieurs genres, je dirais, d'œuvres chantées. L'opéra, c'est Wagner, c'est Puccini, ce sont des grandes œuvres, c'est Verdi, des grandes œuvres en général avec un grand texte, souvent Shakespeare, par exemple, notamment chez Verdi. Après, il y a cette notion qu'on a du mal à bien cerner, qui s'appelle l'opéra comique. Alors, pourquoi comique ? L'histoire est longue à expliquer parce que, en fait, l'opéra comique peut être tout à fait dramatique. Par exemple, Carmen est un opéra comique. Or, Carmen meurt, Don José se suicide, donc on est loin du comique. Pourquoi opéra comique ? Enfin, en tout cas, que veut dire opéra comique ? Ça veut dire que c'est un mélange de textes, un mélange de chants, quelquefois des ballets, et une œuvre, je dirais, d'une approche plus aisée que les grands opéras que j'aurais peine à qualifier de sérieux, parce que dans Carmen c'est très sérieux, mais en tout cas il y a des œuvres d'une grande ampleur, d'une grande profondeur, et puis il y a des œuvres plus faciles d'accès. Carmen c'est une histoire assez facile, qu'on comprend, que tout le monde suit avec beaucoup d'intérêt, c'est très dynamique. Donc, et il y a des passages parlés, donc il y a du théâtre, c'est ça l'opéra comique. Et qui, encore une fois, n'a rien de comique. Par contre, l'opéra bouffe, là, pour le coup, c'est comique. Ça ne s'appelle pas comique, mais ça s'appelle bouffe. Et là, vraiment, la recette, c'est de mettre en place un scénario burlesque, résolument gai, résolument drôle, pour faire rire le public. Et c'est ça, le génie d'Offenbach, c'est d'être à la fois un grand musicien et de s'être entouré de personnes, dont lui, qui était le chef de file, qui cherchait à faire des spectacles drôles, gais, et d'envoûter les spectateurs. Après, il y a l'opérette. L'opérette, c'est la petite sœur de l'opéra et de l'opéra comique. Ce sont certainement des œuvres d'une moins grande portée musicale, mais qui ont une séduction, une facilité dont on retient les airs et qui a été très appréciée par le public et qui a été et qui est encore l'œuvre de très grands musiciens. Donc ne négligeons en rien l'opérette, il y a des opérettes absolument magnifiques. Mais revenons à notre opéra bouffe. Eh bien, le génie d'Offenbach, c'est ça, c'est d'avoir mélangé, d'être un très grand musicien au service d'une farce. Et toute son œuvre, c'est mettre en évidence des farces, faire rire le public avec une excellente musique. Nous allons maintenant écouter Orphée. Orphée, c'est Orphée aux Enfers. Et écoutons ce que disait Offenbach. Les dieux antiques, tous ces personnages nous ont ennuyés pendant 20 siècles. On peut quand même s'amuser une soirée avec Orphée aux Enfers après 20 siècles d'ennui. Donc écoutons Orphée, l'opinion publique.
Nous allons parler maintenant des années 60 qui ont été une période faste pour Jacques Offenbach. Et nous allons nous intéresser particulièrement à La Belle Hélène, qui est un opéra bouffe en trois actes, avec un livret de Henri Meillac et de Ludovic Halévy, qui ont été ses compères. Et cette Belle Hélène, qui est donc une œuvre musicale et scénique pour voix, chœur et orchestre, se caractérise par son côté comique. Et il contient aussi des dialogues parlés. Et il est aussi librement fondé sur les légendes grecques et sur l'enlèvement d'Hélène de Troie par Paris.
Ces rois feront pli de vaillance, pli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax.
C'est les deux Ajax.
Et talent avec Jactance, avec Jactance, avec Jactance, leur double thorax.
Leur double thorax.
Parmi le fracas immense des cuivres de sax.
Ces rois feront pli de vaillance, pli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax.
Les deux Ajax.
Ces rois feront pli de vaillance, pli de vaillance, c'est les deux Ajax.
Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Combattant un contre mille, un contre mille, un contre mille, grâce à mon plongeon.
Grâce, grâce au plongeon.
J'aurai l'esprit bien tranquille, net et mon talon. Je suis le bouillant Achille, le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon, le mire, le Myrmidon.
Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon. Voici le bouillant Achille, le bouillant Achille, le grand Myrmidon.
Je suis, au fait, qu'est-ce que je suis donc?
L'époux.
Je suis l'époux de la reine, peu de la reine, peu de la reine, le roi Ménélas. Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, ne le dites pas. Je ne me passe de la peine, non, n'y s'y compas. Je suis l'époux de la reine, peu de la reine, peu de la reine, le roi Ménélas, le Méné, Ménélas.
Je suis l'époux de la reine, peu de la reine, le roi Ménélas. Je suis l'époux de la reine.
Le roi Barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon.
Agamemnon.
Et ce nom seul me dispense, seul me dispense, seul me dispense d'en dire plus long.
D'en dire plus long.
J'en le dis assez, je pense, en disant mon nom. Le roi Barbu qui s'avance, bu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Aga, aga,
Memnon. Le roi Barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Le roi Barbu qui s'avance, bu qui s'avance, c'est Agamemnon. Aga, aga, Agamemnon.
Suis l'époux de la reine, pou de la reine. Il fallait oser, et bien Offenbach a osé avec un jeune homme à Lévis, qui était le neveu du directeur du conservatoire. Il avait 21 ans, Offenbach avait 36 ans. Et voilà, ils ont osé, l'époux de la reine, pou de la reine. Et tout ça fonctionne à merveille, mais ça fonctionne à merveille parce que la musique est prodigieuse et parce que notre ami Offenbach est d'un optimisme et d'une ambition, pas vraiment une ambition, mais plutôt une opiniâtreté. C'est-à-dire qu'il va monter plusieurs théâtres, il va tout faire pour avoir les moyens de produire ses œuvres. Continuons avec la belle Hélène.
Adonis, gloire à vous, le feu brûlant, vos folles âmes, hélas, feu. Thank you.
tandis que l'opéra commandait à Verdi un Don Carlos, qui n'obtint d'ailleurs pas un grand triomphe, les variétés et le Palais Royal s'arrachaient la coopération et la collaboration d'Offenbach. Et donc, nous arrivons à l'apogée de sa carrière, qui se situe donc à la fin du Second Empire, 1866-1870. Et là, il faut rappeler qu'il a eu auprès de lui, à côté de ses librettistes, une chanteuse extraordinaire qui s'appelait Hortense Schneider. Elle était aussi actrice et son chant au timbre sombre était vraiment apprécié du public puisqu'il réclamait aussi une voix pas trop lourde et une forte présence scénique. Et là, elle arrive en majesté, si je puis dire, dans la Grande Duchesse de Gerolstein, dont tous les grands noms, le peuple bien évidemment, mais aussi Napoléon III, l'empereur de Russie, le prince de Prusse, enfin les rois de Grèce, de Suède, etc., sont venus applaudir et Offenbach et Hortense Schneider dans La Grande Duchesse, qui est une romance impossible entre une héritière d'un grand duché et un petit soldat dont elle sait toquer.
Offenbach est aujourd'hui joué partout, dans les plus grands opéras du monde. À Paris, à Lyon, qui est un grand opéra, mais aussi à New York, à Vienne, absolument partout. On monte Mozart, on monte Wagner et on monte Offenbach. Parce qu'Offenbach, encore une fois, n'est pas que le clown, le bouffon, le bouffe qui va nous amuser, mais aussi tout ça est supporté par une musique magnifique. Nous l'avons vu dans les... Nous avons vu ce contraste dans La Belle Hélène avec l'époux de la reine et puis les amours divins ardents de flammes, très romantiques. Là, nous venons d'écouter Quelqu'un vous aime de la duchesse de Gerolstein, magnifique mélodie. Et maintenant, nous allons écouter quelque chose de beaucoup plus bouffe, toujours dans la duchesse de Gerolstein. J'aime les militaires. N'oublions pas que nous sommes en plein 19e. Et les statuts sociaux sont importants.
Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur uniforme coquet, leur moustache, leur plumet. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, leur arme et tout, leur manière. En eux, oui, tout me plaît. Quand je vois à mes soldats, pour la guerre, fixez-moi l'œil à 15 pas. Vrai que j'en suis toute fière. Seront-ils vainqueurs ou défaits? Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Je n'en sais rien ce que je sais. Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime.
Venons d'écouter Régine Crespin, qui était une immense chanteuse, qui a notamment chanté Wagner et qui a la voix qui convient, car chanter J'aime les militaires, il faut être une grande chanteuse. Et nous avons dans cet air et dans son texte une des caractéristiques aussi d'Offenbach, telle Molière qui avait un pouvoir satirique envers les humains, et puis envers la société, envers les valeurs établies, eh bien Offenbach, lui aussi, est très satirique. J'aime les militaires, j'aime leurs moustaches, leurs plumets. Tout le monde voit la satire et le côté un petit peu ridicule qui est tourné, sinon en dérision, tout au moins en rire. On en rit. Et le terrain militaire, le champ de bataille d'Offenbach, c'est Paris, c'est la vie parisienne. Rossini, qui était un petit peu vexé de son succès, dira de lui « c'est le Mozart des Champs-Élysées ». Eh bien oui, une des composantes de l'immense succès d'Offenbach, c'est aussi ça, c'est la force satirique. Il se moque de la société, il se moque des conventions, tout en faisant de l'immense musique et en faisant rire tout le monde. Écoutons maintenant « La vie parisienne, je suis la veuve d'un colonel ».
Qu'est-ce que sous-titrage
Nous allons donc maintenant nous tourner vers Les Brigands, qui est un opéra bouffe en trois actes et qui a d'abord été donné en 1869, donc en pleine apogée d'Offenbach. Et une autre version a été proposée au public au Théâtre de la Gaîté en décembre 1878. Et la première a eu lieu, faut-il le rappeler, le 25 décembre. Donc écoutons avec plaisir Les Brigands.
Écoutez, écoutez, voyez-vous là-bas, 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 tout près des grottes, reluire des casques d'acier. Voyez là-bas, voyez là-bas, j'entends, j'entends un bruit de bottes,
de bottes,
de bottes. J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers,
les bottes des carabiniers.
J'entends un bruit de bottes, de bottes, de bottes, de bottes, de bottes. C'est le premier carabinier,
c'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers, et des carabiniers. Halte là, éteignons tout, faisons silence. Plus tard, nous montrerons du cœur. S'il est à temps pour la valeur, il en est à pour la prudence. Silence, silence, silence.
J'entends un bruit de botte, de botte, de botte, de botte, de botte. C'est le premier carabinier.
C'est le premier carabinier.
Ce sont les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes, les bottes. Les bottes des carabiniers.
Oui, des carabiniers.
Silence.
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 Silence, n'entendez-vous pas encore le bruit de leurs pas? Chantez, mais bien bas, tout bas, bien bas, piano, piano, pianissimo, piano.
J'entends un bruit de bas.
Des carabiniers,
des carabiniers,
des carabiniers.
des carabiniers.
Faut-il rappeler que Offenbach a pu être considéré dans ce temps de guerre où les bottes retentissaient sur les pavés et où la guerre avait été assez désastreuse entre Français et Allemands. Offenbach était donc considéré parfois comme Allemand par les Français et Français par les Allemands. Là, maintenant, nous allons nous intéresser à Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus. Amadeus, c'est lui qui a ajouté ce troisième prénom, puisqu'il était passionné et amoureux de la musique de Mozart. Il s'agit donc d'un écrivain, mais qui était aussi musicien et poète allemand. Il a donc écrit des contes dits fantastiques, voire un peu effrayants, où on pouvait trouver des fantômes, des sorcières édentées, des histoires à faire peur, nous pourrions dire. Il a aussi composé les élixirs du diable, les tableaux nocturnes, et aussi les souffrances musicales du maître de chapelle, Jean Chrysler. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que chez Hoffmann, la musique resta toujours sa première passion. Il signa beaucoup d'ouvrages, musique de chambre, pièces pour piano, symphonies, des ballets, des œuvres liturgiques. Et il est aussi un excellent critique d'art et de musique. Et il a eu une grande compréhension de Beethoven. Il a écrit à son sujet et il lui valut une belle lettre de sympathie de Beethoven et même un canon à son propre nom, Hoffmann. Il a aussi inspiré Schumann avec ses Chrysler Riana, donc du nom du maître de chapelle Chrysler. Et il a aussi inspiré Tchaïkovski, puisque Hoffmann a écrit Casse-Noisette, et Wagner aussi, avec Offenbach, qu'il a aussi bien connu.
Était une fois à la cour d'Eisenach, un petit avorton qui se nommait Kleinsack. Il était coiffé d'un colbac et ses jambes faisaient flic-flac, clic-clac, clic-clac. Voilà, Kleinsack. Flic-flac, clic-clac, clic-clac. Voilà, Klein Sack. Il avait une bosse en guise d'estomac. Ses pieds ramifiés semblaient sortir d'un sac. Son nez était noir de tabac et sa tête faisait Tic-trac, tic-trac, voilà, Kleinsack. Tic-trac, 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 voilà, Kleinsack. Quand on trait au trait de sa figure, sa figure était charmante. Je la vois, elle, elle comme le jour où courant après elle je quittais comme un fou la maison paternelle et m'enfuis à travers les mains. Enveloppé d'un
Christian nous a parlé d'Hoffmann, le poète allemand, personnage réel qui a écrit. Eh bien, Offenbach, lui, s'est appuyé sur ce personnage pour passer du burlesque, de l'opéra bouffe à l'opéra fantastique. Il dépeint dans les contes d'Hoffmann, il part des contes écrits par Hoffmann pour en faire une histoire. Et c'est une histoire d'amour, d'amour d'ailleurs insatisfait et désastreux. Le poète Hoffmann voit un rival qui s'appelle Lindorf lui nuire auprès d'une cantatrice alors qu'ils sont à l'opéra pour écouter Don Giovanni. Et à cette occasion, il parle d'amour où il n'a eu que des déconvenues ou en tout cas des sources de tristesse. Et chaque fois dans ses rêveries, les rêveries d'Hoffmann, dans les contes, eh bien, arrive ce personnage de Lindorf qui vient jouer le trouble fait et qui vient détruire les espoirs d'amour d'Hoffmann. Après Hoffmann lui-même qui chantait, enfin en tout cas le personnage d'Hoffmann que nous venons d'écouter, écoutons maintenant un des airs les plus connus d'Offenbach, « Belle nuit aux nuits d'amour » où nous sommes réellement dans le fantastique. Les contes d'Hoffmann, c'est l'opéra d'Offenbach après de nombreux opéras bouffes où il aura distrait Paris et laissé un héritage extrêmement drôle pour des décennies, voire des siècles. Là, les contes d'Hoffmann, c'est un opéra. Et toujours dans cet esprit de contraste, nous allons terminer cette émission après « Belle nuit aux nuits d'amour », cette mélodie merveilleuse, par un symbole que vous allez tous reconnaître, que l'on trouve dans Orphée, ce bal est original.
We'll be right back.
sur ce galop dit infernal que chacun d'entre nous a pu reconnaître. Nous allons quitter Offenbach et la fois prochaine nous tourner vers un grand romantique, Franz Schubert.
Nous avons pu écouter une pièce de salon, Les larmes de Jacqueline, par les violoncelles français. Extrait du Bataclan Nous sommes français, l'orchestre de Jean-François Paillard en 1967. En l'occurrence, à cette époque-là, Jean-François Paillard venait à Bourg au théâtre. Ensuite, Orphée aux enfers, c'est l'opinion publique par Marc Minkowski. Deux extraits de La Belle Hélène, l'un par René Libovitz, Les Rois de Grèce et l'Orchestre Philharmonique de Paris, et l'autre Marc Minkowski et les musiciens du Louvre avec Anne-Sophie von Notaire. Deux pièces de La Grande Duchesse de Gerold Stein, Oui, Général, quelqu'un vous aime par Anne-Sophie von Notaire, puis La Grande Duchesse, toujours J'aime les militaires, Régine Crespin. Enfin, La Vie parisienne par Anne-Sophie von Notaire, toujours. Puis Les Brigands dans un extrait qui est dans les archives de France Musique par Juliette et Louis Musy. Et enfin deux pièces des Contes d'Hoffmann, l'une magnifique chantée par Roberto Alagna à l'Opéra de Lyon et l'autre par Patricia Petitbon. Il s'agit là de Belle Nuit aux Nuits d'Amour et toujours à l'Opéra de Lyon. Et finir par le symbole de la vie parisienne qui de fait est extrait d'Orphée aux Enfers, le galop, que tout le monde connaît et qui est le symbole aujourd'hui des Folies Bergères. À bientôt donc pour Schubert.
À bientôt donc.